commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur l'Ukraine, car il se passe pas mal de choses. Il s'est passé beaucoup de choses dans les jours qui ont précédé, notamment cette fameuse affaire d'un drone ou de drones qui ont survolé le Kremlin et qui ont explosé au-dessus du Kremlin, avec des accusations réciproques, évidemment les Russes accusant l'Ukraine et Washington, et l'Ukraine disant, protestant de son innocence dans cette affaire. Mais ça a permis aux dirigeants russes de relancer verbalement, en tout cas, une offensive d'une rare violence contre les dirigeants ukrainiens, puisqu'il est question désormais de cibler et de tuer le président Zelensky. Avec nous, pour tenter de démêler tout cela, nous avons Frédéric Ancel. Frédéric Ancel, merci d'être avec nous et bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes professeur en géopolitique, vous enseignez à la fois à Sciences Po et vous écrivez pas mal de choses, notamment un dernier ouvrage qui est une petite leçon de diplomatie.
Au pluriel, leçon de diplomatie chez Autrement qui sort cette semaine.
Voilà, alors évidemment on va parler de la guerre, mais vous allez aussi nous parler de diplomatie. Et donc je vais laisser peut-être Jean-Claude introduire notre discussion. Jean-Claude Casanova.
Oui, bien, j'espère que notre ami Frédéric va nous sortir du brouillard dans lequel nous nous trouvons. Je pourrais résumer l'interrogation actuelle. On attend une offensive ukrainienne et donc on réfléchit sur la façon dont la Russie va se défendre. Alors il y a deux questions. Est-ce que cette offensive pourrait être décisive? Pour l'instant, on a l'impression que les experts hésitent là-dessus. Et la deuxième question, elle sera ça certainement significative de plusieurs choses. Elle sera significative de la capacité de l'Ukraine à mener cette guerre, de la qualité de l'aide occidentale, puisque si l'Ukraine mène cette offensive, c'est parce qu'elle a été armée par l'Occident, armée et entraînée, et elle sera significative sur la capacité de résistance des Russes qui ont érigé des barrages, etc. Donc voilà les deux questions. Sera-t-elle décisive et de quelle façon pourrait-elle être significative ?
Frédéric Ancel.
Alors, il y a une question politique et une question militaire. La question militaire est la suivante. Est-ce que l'Ukraine dispose d'une force pénétrante suffisante pour effectivement bousculer le front? À ma connaissance, non. C'est-à-dire que on donne effectivement, surtout les Américains depuis 14 mois, mais les Européens dans une moindre mesure, donnent à l'Ukraine de quoi avoir résisté, et de manière tout à fait efficace et assez glorieuse et assez héroïque à certains égards, mais certainement pas de quoi bousculer de manière décisive le front. Lorsque on voit ces dernières semaines des chars, notamment des chars Léopard, commencer à arriver en Ukraine, c'est tout à fait impressionnant. Un char, c'est plus de 60 tonnes et son canon est extraordinairement impressionnant. Sauf que c'est un char. 10 chars, c'est 10 chars. Ce n'est pas une division. Autrement dit, vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui, face à la masse critique des hommes, même s'ils ne sont pas très bien formés et manifestement pas très motivés, face à cette masse critique russe, ultra retranchée, comme l'a très bien rappelé Jean-Claude il y a un instant, notamment retranchée au sud, derrière le fleuve Dniepr, hein, et le Dniepr, c'est pas la Marne, hein, c'est extrêmement large. Donc, face à tout cela, il est pour l'instant à peu près évident que l'Ukraine ne peut pas bousculer de manière déterminante, décisive, l'armée russe. Quand je dis décisive, c'est-à-dire jusqu'aux frontières du 22, enfin frontières internationales en fait, hein, du 22 février 2022. Peut-être que je me trompe. Maintenant, sur le plan politique, est-ce que cette offensive aura réellement lieu? J'en sais strictement rien. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on en parle. Une démonstration de force vaut force. Le simple fait que l'Ukraine annonce depuis maintenant plusieurs semaines, voire même 2-3 mois, une grande contre-offensive, sert déjà en soi, qu'elle en soit capable ou pas, qu'elle en ait la volonté ou pas, l'Ukraine, ça sert déjà, un, à rassurer l'opinion publique ukrainienne et à tendre le ressort des énergies nationales, deux, à démontrer aux Européens et aux Américains qu'ils ne donnent pas à fond perdu, parce qu'effectivement, sur place, ils assument le fait de faire la guerre, même si pour l'instant, on la voit pas, cette contre-offensive, et trois, surtout, j'insiste, ça sert à faire peur aux soldats russes. Et là, je crois qu'on est sur une interrogation, parce que moi, je ne sais pas du tout s'il y aura effectivement cette grande contre-offensive. Ce que je sais, c'est que on en aura beaucoup parlé, et ça aura d'une façon ou d'une autre interagi dans le cadre de cette guerre.
Jean-Claude Casanova.
Oui, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là un risque, si elle n'a pas lieu, quelle sera quels seront les effets de l'interprétation de la non-existence de l'offensive.
Frédéric Anselme.
C'est une question tout à fait centrale qu'on peut aussi poser à du côté russe. C'est-à-dire que en réalité, comme vous le savez, à la guerre, la première victime c'est toujours la vérité. Donc chacun établit sa propre propagande. Et au fond, le fait de ne pas réussir à mener une offensive militaire importante, cela permet dans une certaine mesure de démontrer que en face, on est décidément beaucoup trop puissant et que par conséquent, il faut que nous obtenions, nous autres Ukrainiens en l'occurrence, davantage encore d'armes et de moyens. D'ailleurs, M. Zelensky n'est absolument pas stupide et joue sur les deux tableaux, sur le fait que de toute façon, il est au front, il se maintiendra au front et que la victoire est absolument inéluctable, mais en même temps, il nous demande de façon extraordinairement insistante et je le précise très légitime, beaucoup plus d'armes pour pouvoir efficacement faire la guerre. Donc je dirais que dans un cas comme dans l'autre, c'est pas forcément perdant pour M. Zelensky.
Mais justement, je reviens à votre premier propos, Frédéric Ancel, lorsque vous dites que l'Ukraine, en l'état, n'a pas les moyens de bousculer le front, de perturber au point d'arriver jusqu'à la frontière, ce qui est évidemment l'objectif politique et militaire de l'Ukraine. Est-ce que ça ne renvoie pas au fait que, décidément, les Occidentaux, c'est-à-dire Américains et Européens, ne veulent pas donner ces armes à l'Ukraine, et notamment des avions, puisqu'on attend toujours des avions, des chasseurs-bombardiers qui n'arrivent pas et qui n'arriveront pas. Et donc, au prétexte, je ne sais pas, en tout cas, on voit bien que le motif sous-jacent serait de dire, oui, mais si on les donne, l'Ukraine avancera jusqu'à la Crimée. Et donc, on fait un petit peu de la Crimée le point, une sorte de ligne qu'il ne faudrait pas franchir. Est-ce que c'est cela qu'il faut se dire,
oui,
Frédéric Ancel?
Oui, c'est un faux paradoxe. C'est-à-dire que depuis le commencement, les Occidentaux, les Américains compris, ne veulent pas risquer une co-belligérance avec la Russie. On ne veut pas faire la guerre à la Russie, à tort ou à raison. Je pense qu'on a raison de tout tenter, en tout cas, pour éviter la guerre contre la Russie. Vous savez que la co-belligérance, c'est pas du tout un point de droit international. C'est nous qui décidons qu'il y a co-belligérance ou pas, et en l'occurrence, ce sera M. Poutine qui le décidera. Là, vous évoquez la Crimée. Je pense que la Crimée, c'est la ligne rouge absolue. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, les Occidentaux savent que Poutine subira une telle humiliation, une telle avanie si des soldats ukrainiens rentraient en Crimée, que là, ils seraient réellement obligés de renverser la table. Donc ça signifie peut-être une guerre nucléaire, ne serait-ce qu'au niveau du tactique, et ça, on n'en veut pas. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez raison de le rappeler, on a fourni effectivement, d'abord tardivement, des chars à l'Ukraine, mais pas en capacité pénétrante. Ce ne sont pas ce que De Gaulle appelait des années 30 des moteurs combattants, hein, c'est-à-dire que ces chars sont trop peu nombreux pour ne pas être saupoudrés. Et de ce point de vue-là, ça ne peut pas, me semble-t-il, au sol être décisif. Quant à l'espace aérien, pour l'instant, même si les Russes d'ailleurs n'y vont que très très parcimonieusement, parce que vous savez qu'un chasseur-bombardier moyen, c'est quand même 100 millions de dollars. Bon, donc on fait très attention avant de l'envoyer au feu, et les Russes préfèrent propulser des missiles qui coûtent moins cher, quitte à écraser la population, mais ça je pense que ça les empêche pas de dormir. Mais du côté ukrainien, effectivement, vous avez raison de le rappeler, on aurait pu envoyer, enfin les Américains en tout cas, auraient pu envoyer des chasseurs-bombardiers à l'Ukraine. On ne l'a pas fait, on ne le fait pas. Alors on forme des pilotes ukrainiens pour plus tard, mais on craint manifestement, et ça c'est vrai depuis le premier jour, une guerre avec la Russie. On n'en veut pas, je dis on, sauf, alors, la Pologne et les Pays-Baltes sont un cas à part. Mais eux, pour des raisons historiques et géographiques bien compréhensibles, évidemment, ils souhaitent sans doute aller plus loin, mais enfin, ils sont extrêmement minoritaires, et c'est la part la plus faible et la plus pauvre de l'OTAN. Donc, de ce point de vue-là, ils n'ont pas voix au chapitre.
En même temps, ce sont les premiers concernés. Si la Russie avait gagné en Ukraine, ils auraient été la prochaine ligne de front. Donc, on peut les comprendre. Et ces questions ont ressurgi parce que, très récemment, donc, les Ukrainiens ont réussi à bombarder ou à faire exploser un dépôt de carburant à Sébastopol, donc en Crimée. Donc du coup, la question de la Crimée est revenue sur le devant de la scène, Frédéric.
C'est juste, mais vous savez, je considère en géopolitologue que à la fin des fins, la matière politique précieuse, celle pour laquelle on fait la guerre, c'est quasi systématiquement la souveraineté. Et la sacro-sainte souveraineté correspond d'abord et avant tout au contrôle d'un territoire, et d'un territoire bien terrestre, hein, par définition, avec des hommes, leurs deux yeux, deux bras, deux jambes et un drapeau et éventuellement un fusil. Et de ce point de vue-là, les missiles ne vous permettent pas. Alors, ils permettent de tenter de casser les infrastructures de l'ennemi, peut-être son moral dans une certaine mesure en général, ça marche pas. Mais surtout, vous ne contrôlez absolument aucun territoire parce que vous l'avez bombardé. Donc c'est bien, je veux dire, entre guillemets, d'un point de vue strictement militaire, de montrer qu'on a la capacité de frapper de l'autre côté de la frontière, cassant d'ailleurs la sacro-sainte inviolabilité du territoire soviétique puis russe depuis décembre 44 quand même. Hein. Donc ça, c'est quand même... Parce que je rappelle que il y a un an, un peu moins d'un an, une base aérienne russe a été touchée par des drones et par des missiles ukrainiens sur le territoire russe. Hein, et c'était une base aérienne stratégique, hein, parenthèse fermée. Donc c'est bien, l'Ukraine démontre qu'elle est capable de faire des choses intéressantes d'un point de vue militaire, mais ça n'assure en aucun cas le retour de la Crimée à la souveraineté, sous la souveraineté de Kiev.
Jean-Claude Casanova.
Oui, mais l'Occident actuellement, Europe, États-Unis, dispose de deux moyens d'action. D'une part, l'aide à l'Ukraine, et Frédéric vient de faire le point. Le deuxième volet, ce sont les sanctions qui doivent certainement gêner la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction? Comment les Russes vivent-ils les sanctions et quel est leur degré d'efficacité? Et se maintiendront-elles du côté occidental?
Frédéric Ancel,
vaste question. Oui, plusieurs questions absolument centrales en une. Alors, quand on parle des Russes, si on parle du pouvoir de poutinien, il en est extrêmement satisfait. Parce que sa propagande est de nature victimiste et non pas triomphaliste. Et de nature victimiste, on le voit d'ailleurs encore ces dernières heures avec l'attaque réelle ou supposée, moi je pense que c'est un coup monté par le Kremlin, de ces pauvres drones sur le drapeau de la coupole du Kremlin. Bon, tout ça est ridicule et je pense que ce victimisme-là implique quelque chose d'extrêmement positif quant aux sanctions, histoire de démontrer à la population, comme je vous l'ai toujours dit, moi, votre président bien-aimé, les Occidentaux veulent nous abattre, nous anéantir et vous empêcher, vous autres, mon peuple, de vous nourrir correctement. Donc pour Poutine, c'est formidable. Pour le peuple russe, c'est, et ça sera beaucoup plus difficile. Après, on a des réseaux de solidarité et une résilience russe, puis soviétique, là je remonte dans le temps, puis à nouveau russe tsariste pendant des siècles et des siècles, proprement stupéfiante. Donc je dirais que dans une certaine mesure, les Russes s'adapteront. Enfin, dernier point, sur le plan de la puissance russe générale, c'est tout à fait catastrophique. Même si le rouble ne s'est pas effondré, ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, n'était pas la stratégie immédiate de l'Occident, même si le rouble ne s'est pas effondré, on a aujourd'hui une vassalisation de l'économie russe sous l'économie chinoise et dans une certaine mesure un besoin de l'Inde maintenant en termes d'achat de ce que produit la Russie quasi exclusivement, c'est-à-dire du gaz naturel et du pétrole, qui est tout à fait dramatique à terme. Et ça, je pense que Poutine en portera la très lourde responsabilité pour les siècles à venir pour sa propre population et devant son propre peuple.
Jean-Claude Casanova.
Oui, je comprends bien, mais ça veut dire qu'on est dans une situation qui peut se prolonger encore très longtemps. Est-ce que vous voyez apparaître des possibilités de retournement, ou est-ce que les Russes vivent simplement dans l'idée que l'Occident se découragera, qu'il y a un certain nombre de facteurs, et après tout, ils attendent les élections américaines, il peut y avoir une lassitude de l'opinion américaine, ils attendent une fracturation de l'Europe, comme ils l'ont toujours attendu et souhaité. Est-ce que la stratégie russe n'est pas simplement une stratégie d'attente du pourrissement et de la désunion occidentale?
Je pense que ça a été le cas les premières semaines, puisque Poutine s'est planté sur pratiquement tout. Je veux dire par là qu'il a mésestimé tous les acteurs de son écosystème, de Joe Biden, Sleepy Joe, mais qui ne slip pas du tout sur la question ukrainienne, ni d'ailleurs sur Taïwan. Les Européens féminisés, homosexualisés, décadentisés, qui finalement ont réagi de manière tout à fait remarquable. La conscience nationale ukrainienne qui s'est révélée existante et même très forte. Et Poutine a même mésestimé, mais cette fois en la surestimant, l'aide de la Chine. Donc il s'est planté sur tout. Mais dans les premières semaines, lui qui croyait ne pas avoir besoin de faire la guerre, attendait effectivement, et jouait beaucoup hein, sur le fractionnement des Occidentaux. On se souvient d'ailleurs de ses prises de position favorables, par exemple à la Hongrie de Orban, etc. Je pense qu'il a compris au printemps, peut-être à l'été dernier, que c'était vain. Et que par conséquent, il fallait renverser la table. Je veux dire renverser la table, pas heureusement sur le plan militaire et nucléaire, mais renverser la table sur le plan diplomatique. Et regardez à quel point la sémantique et la rhétorique diplomatique russe ces derniers mois deviennent alors encore plus agressives, si c'était possible, qu'auparavant, en nazifiant pratiquement tous leurs adversaires, mais surtout en cherchant en appelant le monde entier à modifier en profondeur les relations internationales. Ce n'était pas le cas dans les premières semaines de la guerre. Et c'est la raison pour laquelle je pense que là, il y a effectivement une forme de panique, en tout cas de prise de conscience chez Poutine que finalement, on n'arrivera pas à empêcher les Occidentaux de poursuivre leur soutien à l'Ukraine.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Frédéric Ancel, qui est professeur en géopolitologie, qui est géopolitologue donc et qui nous éclaire sur la situation actuelle de la guerre en Ukraine, de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine. Vous évoquiez les fondements au fond presque idéologiques, Frédéric Ancel, de l'attitude russe désormais, qui correspond très exactement à l'ambition chinoise. L'ambition chinoise est en effet de refonder les relations internationales, notamment en abandonnant la doctrine occidentale des droits de l'homme et en lui substituant la propre doctrine chinoise qui convient parfaitement à des régimes autoritaires. Est-ce que vous souscrivez aussi à cette vision ?
Et je ne sais pas, parce que sur la Chine également, il y a des incertitudes. Le désaveu de l'ambassadeur chinois à Paris par Pékin, et surtout, je voulais demander à Frédéric comment il interprète le coup de téléphone du président chinois au président ukrainien. Est-ce que c'est une broutille diplomatique sans grande importance ou est-ce que ça a une signification comme une forme de décalage par rapport à la Russie ?
Frédéric Ancel.
Depuis le début de cette affaire et toutes ces dernières années, auprès de mes étudiants à Sciences Po, dans mon modeste ouvrage, dans mes articles, j'affirme un point. Il n'y a pas d'alliance entre Moscou et Pékin. Et cette espèce de sentiment, ou plutôt ce galvaudage paresseux des termes chez beaucoup d'observateurs, bien sûr pas ici, mais chez beaucoup d'observateurs, trop léger, est tout à fait insupportable et nous empêche de comprendre la stratégie chinoise. La Chine n'a pas d'alliés. La Chine a des partenaires. La Chine ne se lie pas les mains, et d'ailleurs c'est vrai sur des temps l'ombre des liens. La Chine n'a pas d'alliés militaires sur les 192 États qui partagent son espace à l'ONU. Enfin, il y en a un, c'est la Corée du Nord, mais c'est un cas très particulier. Donc, il n'y a pas d'alliance. Et d'ailleurs, regardez à quel point, et ça renvoie à votre très juste question, cher Jean-Claude, regardez à quel point, depuis le début de cette affaire, la Chine s'est toujours abstenue à l'Assemblée générale des Nations Unies quant à la condamnation de la Russie. Alors bien sûr qu'elle ne la condamne pas, n'empêche qu'elle s'abstient. On fait mieux comme alliance. Deux, certes elle achète du gaz naturel et du pétrole à la Russie, mais à des prix complètement cassés. On fait mieux comme allié. Trois, le coup de fil, vous avez raison de le rappeler, mais je rappelle qu'il y en a déjà eu un dans les premiers jours de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'en termes de crédibilité, l'ami indéfectible ou éternel, Poutine, a mis la Chine dedans. Je veux dire par là que la sacro-sainte souveraineté des États-nations, pour la Chine, c'est un axe diplomatique et stratégique fondamental. Or, voilà que le copain Poutine, un peu turbulent, envahit un État totalement souverain. Cerise sur le gâteau, cet État souverain qu'est l'Ukraine avait et entretient de très bons rapports avec la Chine. Donc tout ça pour dire que... Et j'ajoute un dernier point, excusez-moi, il est très important. À chaque fois que M. Poutine, c'est-à-dire à 5 reprises, si ma mémoire est bonne, a laissé entendre qu'on pouvait aller vers l'apocalypse, sous-entendu une guerre nucléaire, le pays ultra conservateur sur le plan nucléaire qu'est la Chine, est immédiatement monté au créneau. À chaque fois, Poutine se fait d'une façon ou d'une autre taper sur les doigts par Pékin lorsqu'il donne le sentiment qu'on pourrait aller à du nucléaire tactique. Donc tout ça pour dire que je crois beaucoup que la Chine effectivement veut modifier les relations internationales. C'est vrai dans son sens, enfin dans le sens de sa montée en puissance, c'est vrai, tout en vassalisant la Russie, tout en ne modifiant pas du tout le traité de non-prolifération de 68, à laquelle elle est absolument et indéfectiblement attachée, et sans modifier, s'il vous plaît, sans modifier le système monde au sens économique qui lui a permis à ce système prétendument communiste de devenir la deuxième puissance économique du monde. Donc c'est renverser la table sans la renverser, ou plus exactement la renverser, tout en gardant l'essentiel du jeu qu'elle a entre ses mains.
Dernier point peut-être que je voudrais aborder aussi, Frédéric Ancel, on a évoqué donc cet épisode du fameux drone qui a survolé le Kremlin. C'est assez drôle d'ailleurs parce qu'on a le sentiment que c'est une sorte de pétard presque de feu d'artifice qui survole et qui explose au-dessus, donc sans faire vraiment des dégâts, ni évidemment on ne peut pas croire un instant que cet engin était destiné à tuer Vladimir Poutine, mais et parmi les hypothèses qui sont évoquées, il y a des hypothèses disant « mais ça vient peut-être de cercles russes qui seraient opposés à Poutine ». Ça m'amène à la question de savoir si la mainmise de Vladimir Poutine avec son fameux couple répression-propagande, ce sont les deux piliers de son pouvoir, a permis d'avoir une opinion soudée en effet autour de lui, ou bien est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui des dissensions qui se font jour et des impossibles changements dans les rapports de force au Kremlin, si tant est qu'on puisse le savoir, parce que les portes et les fenêtres sont assez closes en ce moment, oui. Frédéric Ancel.
Oui, c'est une question extrêmement difficile. Alors, on sait qu'il y a des dissensions, mais qu'elles ne se font pas jour, pour reprendre notre très juste expression. Plus exactement, au regard de l'épidémie terrifiante de chute dans les escaliers, à laquelle on a assisté ces derniers mois, d'ingestion de soupe à la manie de phalloïde.
Oui, il fallait pas s'approcher des fenêtres, il fallait pas se mettre dans la piscine non plus. Enfin, il y a eu 22 ou 23 décès de cette nature qui étaient tous des oligarques.
Oui. C'est ça. Donc, si vous voulez ça, et puis des généraux qui ont été... Alors, eux, on ne peut pas les traiter de cette manière-là, parce que sinon, l'armée risque, de se révolter. Mais les généraux qui ne sont pas suffisamment allégeants vis-à-vis de Poutine, j'ai pas dit compétents sur le terrain, j'ai dit allégeants vis-à-vis de Poutine, ils sont discrètement écartés. Donc, il y a des dissensions, mais pour l'instant, à ma connaissance, elles ne vont pas jusqu'à la possibilité d'humilier Poutine en permettant à des drones d'aller se scratcher sur la coupole. Je pense que ça vient de l'intérieur. Tout à l'heure, je vous parlais de la nature non pas triomphaliste, mais victimiste de la propagande choisie par Poutine depuis le début. Voilà qu'aujourd'hui, Poutine peut dire à sa population, vous vous rendez compte que les nazis non seulement sont soutenus par les autres nazis, c'est-à-dire l'OTAN en réalité, dont on a tout l'Occident contre nous. D'ailleurs, en Ukraine, dit-il régulièrement, ou fait-il dire par sa presse aux ordres, il y a des soldats noirs, donc sous-entendu, parce que les Ukrainiens sont assez rarement noirs, donc sous-entendu, il y a des soldats américains en Ukraine, ce qui est évidemment faux, et là, ils vont jusqu'au point de m'assassiner, moi qui vous incarne, et il le dit de manière de plus en plus mystique, car il ne vous aura pas échappé.
Oui. Très présent dans les églises. Oui.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui. Et alors, c'est assez nouveau quand même, surtout pour un ancien officier du KGB. Et donc, ce pouvoir mystico-autoritaire de plus en plus totalitaire incarne la Grande Russie, voire la Sainte Russie. Par conséquent, si il peut démontrer par ces images, pas forcément humiliantes, par ces images terribles, parce qu'elles ont, en principe, elles illustrent le fait qu'on a essayé de l'assassiner, eh bien, il cherche à tendre le ressort des énergies nationales, ça, franchement, c'est pas très nouveau, et ça lui permet de légitimer une, entre guillemets, contre-offensive, et de frapper maintenant à Kiev les lieux de pouvoir, à commencer par les lieux où vivent Zelensky et ses ministres.
Jean-Claude Casanova, quelques considérations là-dessus?
Mais en même temps, l'émigration des artistes ou des intellectuels ou des personnes éduquées continue de se produire. La Russie n'est pas complètement fermée. La partie éduquée de la Russie, la population de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, sait ce qui se passe. Et malgré tout, si vous voulez, on voit assez clairement, à ce point de vue-là, une fragilité intérieure. Poutine s'adresse à la partie la plus obscure de la population, à celle qui ne comprend pas le système international, qui ne comprend pas l'Occident. Mais il y a une fracture implicite, je crois, dans la société russe actuellement.
Frédéric.
Oui, d'ailleurs, on l'a vu dès les premières heures de la guerre. Vous avez tout à fait raison. Et je pense que Poutine laisse effectivement les portes ouvertes, en tout cas dans ce sens-là. Vous savez, pour un régime dictatorial, il y a deux possibilités. Il y a deux moyens de se débarrasser de ses opposants. Soit de les conserver, de les empêcher de sortir et de les envoyer au goulag ou dans des camps de concentration. C'est ce que Staline faisait. Soit au contraire, de les laisser sortir, quitte à ce qu'ils puissent s'exprimer ensuite en Occident. Mais de toute façon, ça ne vaudra rien aux yeux, évidemment, du régime dictatorial susmentionné, de façon à ce qu'il ne pose pas de problème en interne. Bon, bah ça c'est un peu la République islamique d'Iran et c'est un peu aujourd'hui la Russie poutinienne. On préfère laisser les intellectuels et les progressistes sortir plutôt que de les avoir à l'intérieur.
Ils sont souvent martyrisés, en fait, les opposants. Alors, regardons Navalny, entre autres.
Mais Navalny est revenu. Mais Navalny, très courageusement, héroïquement, a décidé de revenir. Vous vous rendez compte du courage qu'il a fallu, parce qu'il savait très bien ce qui allait se passer. Non mais, attendez, à partir de ce moment-là, bien évidemment, les Russes n'allaient pas commencer une partie de ping-pong en le rejetant d'un aéroport.
Jean-Claude Casanova, quelques mots de conclusion provisoire, évidemment.
Mais je crois que nous restons dans le brouillard. Ça ne change rien, je crois, à la détermination de ceux qui souhaitent une paix honorable pour l'Ukraine.
Cela dit, on retiendra aussi que donc l'Ukraine manque toujours de ce qu'elle demande fondamentalement, c'est-à-dire de pièces maîtresses dans son armement qui lui permettrait d'enregistrer des gains rapides. Donc on n'est pas prêt de voir s'éteindre ce conflit, même si j'ai vu que l'Europe, en la personne de son commissaire européen chargé de récolter des fonds pour que l'Europe puisse fournir par millions des obus à l'Ukraine. Donc ça aussi, c'est un élément nouveau dans la situation politique actuelle. C'est la mobilisation de l'Union européenne.
Attendons ce que sera l'axe dans sa campagne électorale, ce que sera l'axe de Biden. Est-ce qu'il aura un axe d'accroissement de l'aide à l'Ukraine ou de stabilisation s'il pense que c'est mauvais au point de vue électoral? Je ne sais pas encore quel sera le choix qu'il fera du thème ukrainien dans l'année qui vient.
Frédéric.
En tout cas, vraisemblablement, le maintien de sa ligne otanienne et pro-ukrainienne, ce que je crains comme la peste et le choléra réunis, c'est l'élection ou la réélection d'un républicain, alors attention, d'un républicain isolationniste et nationaliste, voire un républicain totalement inconséquent comme Trump, qui là risquerait non seulement de cesser son soutien à l'Ukraine, mais de casser l'OTAN, comme voulait le faire Trump avant la campagne électorale précédente.
Nous reviendrons évidemment sur tous ces sujets. Merci en attendant, Frédéric Ancel, de nous avoir accompagné aujourd'hui. Frédéric Ancel, qui enseigne la géopolitique, notamment à Sciences Po à Paris, et qui vient d'écrire des petites leçons de diplomatie aux éditions Autrement. Merci donc, Frédéric Ancel. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions. Nous vous souhaitons un bon week-end. Nous vous recommandons de nous retrouver samedi prochain pour une autre édition de commentaires.